Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de vous trouver dans des situations où vous avez l'impression que vous tournez en rond. Vous vivez une situation et vous ne voyez pas l'issue, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous êtes campé sur une position, vous n'arrivez pas à décrocher. Ou bien vous avez une compréhension et ça donne rien ou pas ce que vous aimeriez, mais vous n'arrivez pas à voir autre chose. Vous avez votre regard qui est fixé et ça avance pas. Je sais pas si ça vous arrive ou si c'est comme. Ce matin, je vais surtout parler d'un sujet qui concerne la guérison. Et j'ai nommé mon message la guérison autrement. Je voulais le nommer la guérison ou pas. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est pas juste. La guérison autrement. Et vous pouvez vraiment penser à vos situations, aux situations que vous vivez, parce que j'aurais aussi pu l'appeler l'exaucement autrement. Donc, on a tous des situations où on aimerait bien voir quelque chose qui évolue et on ne sait pas trop comment. Eh bien, c'est de ces situations-là que je parle, mais voilà, moi, je vais peut-être parler davantage de guérison. En fait, je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais j'ai l'impression que des fois, on a une mentalité, c'est comme si ce qu'on vit ici sur Terre, ce qu'on vit dans notre corps de chair, c'est comme si c'était la finalité. C'est comme si tout allait se terminer ici. Tout ce qu'on vit ici, c'est comme si c'était ça l'important. Et en fait, on oublie qu'on est ici sur Terre un tout petit moment. C'est un petit moment de préparation, mais en fait, c'est pour un but. C'est pour une espérance glorieuse. Ce qu'on vit ici sur Terre, c'est pas la finalité, c'est juste le tremplin. On oublie souvent qu'on est des enfants de Dieu héritiers. On est co-héritiers avec Jésus. On est déjà spirituellement assis dans les lieux célestes. Jésus va revenir, il va régner sur terre, on va régner avec lui. Notre corps, il va être glorifié, il va être changé, il va être transformé. À un moment donné, on va être dans les lieux célestes. Il y aura plus de pleurs, il y aura plus de douleurs, il y aura plus de larmes. Même les animaux seront gentils. On va connaître la Jérusalem céleste. On va connaître cette ville glorieuse. Toutes ces choses-là, c'est difficile à imaginer. Pourtant, c'est réel. Pourtant, c'est à ça qu'on doit se préparer. On doit se préparer à rencontrer notre Dieu et à vivre avec lui le plus proche possible. Et ça se passe ici. Donc, ce qu'on vit ici n'est pas la finalité. Alors, avec cette espérance-là, le message que je vais donner ce matin, le but de ce message, c'est que j'aimerais qu'il soit libérateur. J'aimerais qu'il soit libérateur dans le sens où quand on vit dans un problème et qu'on ne voit pas l'issue, quand on a une maladie, par exemple, et qu'on n'obtient pas la guérison, j'aimerais que ce soit libérateur, qu'on puisse se dire « c'est ok si je ne suis pas guérie, c'est ok si je n'ai pas réussi à mettre ma foi en action, c'est ok parce que peut-être qu'il y a des circonstances un peu plus complexes que juste mettre ma foi en action, c'est ok ». J'aimerais que ce soit un message libérateur. J'aimerais aussi que ce soit une exhortation à ne pas stagner, à ne pas se contenter de notre état, parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui se disent « mais en fait, moi, je ne suis pas concernée, je vais bien. Amen. Tant mieux si vous allez bien. » Mais on est tous concernés. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a tous besoin de vivre quelque chose de plus. On a tous besoin d'une certaine forme de guérison. Alors, je vais d'abord prier, je vais encore demander au Saint-Esprit qui m'aide à vous donner ce que lui veut dire. Parce que pour moi, c'est chargé sur mon cœur, mais je ne suis pas sûre d'avoir les mots pour pouvoir le redonner. Et j'aimerais vraiment que chacun puisse recevoir le message qui vient directement du Seigneur et pas au travers de moi. Saint-Esprit, je te remercie parce que si nous ne sommes pas orphelins, c'est parce que tu es venu. C'est parce que tu nous as revêtus de ta puissance, mais tu nous as aussi remplis de toi. Et ce matin, je te demande de venir remplir nos cœurs. Je te demande de venir remplir nos âmes, notre mentalité, nos compréhensions. Je te demande de venir nous visiter, chacun d'entre nous, là où on en est. Je te demande que chaque personne ici, dans cette salle, puisse entendre de toi quel domaine tu aimerais toucher, quel domaine tu aimerais visiter. Je te demande que chacun puisse ressortir d'ici en étant allégé et en étant motivé à entrer dans le chemin qui est tracé pour sa propre vie. Je te demande que chacun puisse saisir ce qui vient de toi. Merci de venir faire cette œuvre en nous, Saint-Esprit. Amen. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Jean, au chapitre 9, les versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Le texte est beaucoup plus long. Il y a toute une histoire ensuite par rapport à cette guérison, mais vous connaissez la fin de l'histoire. Jésus a guéri l'aveugle, ce qui fait que les œuvres de Dieu ont été manifestées en lui. Cet aveugle, il a reçu son miracle. Jésus s'est glorifié en lui. Mais ce que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est, pour commencer, c'est autre chose. J'aimerais souligner la mentalité des disciples. Seigneur, c'est qui a fait faux? C'est ça, la mentalité des disciples. Et en plus de ça, je trouve qu'ils sont extrêmement réducteurs. Qui a péché? Cet homme ou ses parents? C'est à gauche ou c'est à droite? C'est rouge ou c'est vert? Comme s'il n'y avait pas d'autre solution. Je ne sais pas, vous êtes jamais dans ces schémas-là? C'est vraiment étonnant parce que les disciples, par exemple, ils connaissaient très bien l'histoire de Job. Les disciples, ils connaissaient tout ce qui concerne l'Ancien Testament. Et on dirait qu'ils ont vite oublié que les amis de Job, ils étaient exactement pareils. Et ils ont accusé Job, ils l'ont condamné, mais il y a plein de données qu'ils ne connaissaient pas. Et là, les disciples sont exactement dans la même mentalité. Il y a un autre passage qu'on trouve dans Luc, Luc 13, que je ne vais pas projeter parce qu'il est juste un peu plus long et puis que ça ne ferait pas très joli à l'écran. Luc 13, les versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Apparemment, ça semble très humain de vouloir trouver un coupable. Parce que on n'aime pas la souffrance. La souffrance, elle nous met dans un inconfort qui nous place dans une situation d'échec ou dans un sentiment d'échec, un sentiment d'impuissance. Mais si on trouve un coupable, si je trouve un coupable, ben moi, j'y suis pour rien. Je suis dégagée, c'est pas ma faute, c'est pas moi. Je suis déchargée de mes responsabilités. Et parfois, même quand on voit une autre personne que soi-même qui souffre, le fait de dire « mais elle souffre parce que, elle n'est pas guérie parce que », ben en fait, ça enlève mes responsabilités par rapport à cette personne. Et par rapport à moi, si je trouve un coupable par rapport à ce qui m'arrive, ça me décharge aussi de mes responsabilités. Mais le problème, c'est que cette mentalité, cet état d'esprit, ça n'est pas constructif. C'est accusateur. Ça stimule la propre justice. Il n'y a pas du tout de miséricorde là-dedans. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a rien de bon. Alors, c'est vrai que quelquefois, on est quand même responsable de ce qui nous arrive. Par exemple, on est responsable de nos choix. Si on fait des mauvais choix, ben, ma foi, il y a des conséquences et il faut les assumer. Donc, parfois, on est responsable de ce qui nous arrive. Parfois, on proclame des choses négatives sur notre propre vie. Je suis nulle, j'y arriverai jamais. De toute façon, chaque fois que j'essaye, ça va pas. Ça sert à rien que j'appelle pour demander de l'aide. De toute façon, on va me dire non. Enfin, quand on a des attitudes comme ça, il faut pas s'attendre à avoir un exaucement. Donc, dans certaines situations, oui, on est responsable. Mais il y a plein de situations où c'est beaucoup plus complexe. Et c'est de ces situations-là que j'aimerais parler. Il y a un verset sur lequel je me suis souvent appuyée, un verset qui m'a donné beaucoup de réconfort dans ma propre vie, dans mes propres galères, si je peux dire ça comme ça. On le trouve dans le psaume 34, au verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et là, il n'est pas question d'une personne qui a fait faux. Alors, le juste, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a fait tout juste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est justifié par le sang de Jésus. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se confie en Jésus, qui aime Jésus, qui essaye d'obéir au commandement de Jésus. Je dis bien qui essaye parce qu'aucun de nous n'y arrive à 100%, mais qui est dans cette marche-là. Et même si c'est quelqu'un qui sanctifie sa vie, qui s'attache aux choses de Dieu, le malheur l'atteint souvent. C'est une réalité. Et ça doit être déculpabilisant. On peut être malade en étant juste. Il n'y a pas de coupable à aller chercher. Par contre, l'Éternel l'en délivre toujours. Alors pourquoi est-ce que le juste se fait atteindre si souvent? Pour ça, on est obligé de retourner au commencement. Vous connaissez l'histoire. C'est que nous sommes des créatures. Nous existons seulement parce que c'est Dieu qui le veut. Nous sommes des créatures, le Seigneur nous a fait, il nous a conçus dans son cœur. C'est lui qui nous donne la vie, qui nous donne le mouvement et l'être. On ne peut pas exister par notre propre volonté. On ne peut pas exister par nos propres capacités. Ce n'est même pas un choix d'être en vie, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et ça, il l'a fait parce qu'il nous a tellement aimés, il nous a conçus dans son cœur pour nous amener à l'existence, pour nous amener à un projet éternel glorieux. C'est ça son projet. Mais l'histoire qui continue, vous la connaissez, c'est l'histoire du jardin d'Éden, du péché. On a préféré donner l'autorité sur nos vies à un autre et ça nous a complètement pervertis. Ce qui s'est passé lors de la chute, personne n'en est sorti indemne. On est tous malades. Que ce soit corps, âme, esprit, dans nos émotions, dans toute notre vie, on a tous été affectés. Et toute la parole de Dieu, c'est des explications de cette histoire, mais c'est un mode d'emploi, c'est un guide, c'est un manuel pratique, c'est une application du chemin de restauration que le Seigneur nous a donné pour qu'on puisse tout de même entrer dans ce projet glorieux éternel. Mais toute la parole nous parle de restauration. C'est vraiment au goût du jour. C'est le menu du jour. C'est la restauration. On en a tous besoin d'une manière ou d'une autre. Donc même les personnes ici qui ne sont pas malades, croyez-moi, vous avez besoin d'aide. Et vous vous souvenez de ce passage dans Ésaïe 53. C'est un passage dont on a beaucoup parlé par rapport au sujet de la Sainte Cène. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si nous n'avions pas été affectés par la chute, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Il n'aurait pas eu besoin de partager notre condition. Il n'aurait pas eu besoin de prendre nos douleurs, nos souffrances, nos péchés, nos malédictions, toutes ces choses-là. Il n'aurait pas eu besoin de subir ces choses-là. Il n'aurait pas eu besoin de souffrir. Mais s'il est venu, c'est pas pour quelques-uns, c'est pour tous. C'est parce qu'on en a réellement besoin. Alors c'est vrai qu'en plus de se charger de nos maladies, de nos douleurs, Jésus nous a appris à guérir. Il nous a donné des lois spirituelles pour le faire, pour mettre notre foi en action. Donc toutes ces choses-là, elles demeurent. Mais mon propos, il est différent. Je mets pas de côté ces choses-là, elles sont réelles. Et c'est important qu'on persévère dans notre foi et que plus on comprend les choses de Dieu, plus on les applique et plus on voit des miracles se passer. Ça, on doit le faire. Mais on doit pas se culpabiliser quand on n'y arrive pas. Parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut comprendre et peut-être qu'il y a simplement un autre chemin. Dieu, il est complètement divers. Vous avez qu'à regarder la nature. Il y a une telle diversité de plantes, de couleurs, d'animaux. Enfin, on peut pas décrire. Et ben, c'est la même chose dans la foi. Il nous a donné plein d'outils pour la guérison parce qu'il sait qu'on est fragile. Il sait qu'on est limité. Il sait que ça nous est difficile. Donc, il faut vraiment pas être réducteur. Ce qu'il faut bien comprendre quand on vit des choses difficiles, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas rester dans la fatalité. La fatalité n'est pas la bonne voie. Il y a de toute façon une issue. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin, plus en profondeur dans nos compréhensions et dans la recherche du Seigneur. Il y a un autre passage, moi, qui m'aide énormément au quotidien pour essayer justement d'aller rechercher le Seigneur dans des situations difficiles, qu'elles me concernent moi ou qu'elles concernent autrui. C'est dans les Proverbes, Proverbes 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne pas nous appuyer sur notre sagesse, c'est déjà ne pas être réducteur. C'est d'avoir la présence d'esprit de se dire « mais peut-être que je n'ai pas l'entier de la situation, peut-être que je ne connais pas tout, alors il faut que j'aille chercher le Seigneur. » Et reconnaître le Seigneur dans toutes mes voies, c'est, il y a un autre mot selon les traductions, il y a marqué « considère le Seigneur dans toutes tes voies ». Et ça ne veut pas dire « Seigneur, c'est ce que c'est toi qui m'as envoyé la maladie ?» Mais c'est plutôt de me dire « dans ma maladie, Seigneur, tu es où ?» C'est quoi ton projet dans cette maladie? Qu'est-ce que tu aimerais m'enseigner par là? Comment est-ce que tu aimerais me guérir? Comment est-ce que tu aimerais amener la restauration? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne de toi pour aller d'étape en étape? C'est quoi l'issue de sortie? Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des rendez-vous divins que tu mettrais sur ma route? Aide-moi à les capter. Quand on me donne une parole ou quand je croise quelqu'un, aide-moi à te considérer dans cette voie-là, parce que peut-être que tu es en train de me parler à travers de cette personne ou de cette circonstance. Parce que quand nous cherchons la guérison, en général, nous cherchons une guérison visible et palpable. Mais Jésus, souvent, nous donne une guérison invisible, impalpable. On cherche une guérison physique, et souvent, Jésus nous donne une guérison de l'âme, une guérison des émotions, une guérison de l'identité. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous guérir physiquement, mais souvent, il guérit plein d'autres choses en plus que la guérison physique. Des fois, on lui demande une chose, mais lui, il dit « Attends, ça c'est plus urgent, ça c'est plus important. Avec ça, tu vas te sentir beaucoup plus épanoui. Avec ça, tu vas pouvoir grandir. Avec ça, tu auras les outils pour toi-même ensuite obtenir ta guérison. » Par exemple, il y a des gens qui reçoivent une guérison miraculeuse et pourtant, ils ne se convertissent pas. Des gens qui ne sont pas chrétiens, il y a un chrétien qui arrive, qui prie pour lui, il est guéri, mais il ne reçoit pas Jésus. Et ça existe. Par contre, quand Jésus nous guérit à l'intérieur, ça nous rapproche de son cœur. Et c'est ce qu'il faut chercher dans chacune de nos situations. Ça va jusque-là? Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais vous donner mon propre témoignage par rapport à un sujet bien précis. Et en même temps, ce sera l'occasion pour moi de vous rendre des comptes. Parce qu'en quelque sorte, je vous en dois, ou on vous en doit avec Reed, sauf que c'est moi qui ai le micro. Alors je vais parler en termes de jeu, parce que ce sera plus facile. Mais Reed est complètement impliqué et il a fait le même chemin que moi, mais en tant qu'homme et moi en tant que femme. Normalement, je devrais tenir jusqu'au bout. Je vous dois des comptes parce qu'il y a quelques années, vous étiez la plupart d'entre vous présents quand Reed et moi, on a reçu une prophétie au travers de Philippe Martinez, comme quoi on aurait des enfants. Pour moi, ce dimanche-là, ça a été presque plus l'occasion d'exprimer une partie de ma douleur plutôt que de recevoir vraiment la parole. Mais si je m'étais vraiment lâchée, je pense que toute la Chaux-de-Fonds l'aurait entendue. On a reçu cette parole et depuis, rien. Rien selon notre barème humain. Alors, pour la petite rétrospective, on s'est mariés en 94 avec Reed. Et en 96, je suis tombée enceinte et j'ai fait une grossesse extra-utérine. Et environ une année après, j'ai refait encore une fausse couche. Et il s'en est suivi un long parcours de souffrance, de brisement, de descente, de remontée et encore de brisement, etc., etc. Je vous épargne tous les détails. Mais dans ce parcours, je me suis accrochée au Seigneur. C'est la seule chose que je pouvais faire. Et je pense que c'est le fait de m'être tellement accrochée au Seigneur qui fait que je ne me suis pas retrouvée à un moment donné en psychiatrie. Je n'ai même pas fait de dépression et souvent je me suis demandé comment c'était possible. Je me souviens d'un jour, j'étais dans ma chambre d'hôpital après une intervention, je ne sais même plus laquelle. Je regardais par la fenêtre et c'est comme si je voyais le Seigneur. Et je louais le Seigneur. On venait de m'enlever mon bébé qui était mort de mon ventre et je louais le Seigneur et je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, ce qui m'arrive, c'est monstrueux. C'est monstrueux, mais je te louerai encore. Je te louerai encore et je le louais. Seigneur, t'es grand, t'es merveilleux. En fait, la louange, c'est comme si elle était arrachée de moi. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Mais ça, c'est ce qui m'a fait tenir. Il y a aussi le fait que le Seigneur a mis les bonnes personnes sur mon chemin pour que je puisse épancher mon cœur chaque fois que c'était nécessaire. Je pense à Tania. Elle en a entendu semaine après semaine. Je pense à Dora, Oshtuki et d'autres. Je ne pourrais de toute façon pas nommer tout le monde. Mais il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui avaient prié pour nous pendant des années. Il y en a qui nous l'ont dit, on le sait. Il y en a qui l'ont fait dans le secret de leur cœur, je le sais. Je ne pourrais jamais remercier tout le monde, ce n'est pas possible. Le groupe de maison, ça a aussi été un endroit privilégié pour parler de ça. Et voilà, il y a eu cette parole de Philippe Martinez. Et le temps passe, et rien. Mais pour moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a eu rien. Parce que depuis ce moment-là, il y a un déclic qui s'est fait. Et j'ai eu ces rendez-vous divins qui m'ont permis de remonter la pente. À un moment donné, le Seigneur a mis sur mon chemin une femme qui connaît très bien le sujet des pertes de grossesse et tout ce qui touche là autour. Ce n'était pas du tout dans ce cadre-là que je l'ai rencontrée, mais ça, c'est les trucs du Seigneur. Et dans une conversation, elle m'a dit, « Mais Flo, est-ce que tu as nommé tes enfants ?» Et moi, j'ai dit, les deux premiers, je les ai nommés juste comme ça, mais pas les suivants, parce que je vais aller de l'avant. C'est du passé, c'est bon. D'ailleurs, à un moment donné, moi j'avais écrit tout ce qui m'était arrivé. Je m'étais fait mon petit journal à telle date, il m'arrivait telle chose au niveau de ces fausses couches, etc. Mais peu de temps avant cette conversation-là, j'avais eu une crise de rangement. J'ai trié toute ma paperasse de tout ce qui s'agit, enfin tout ce qui est paperasse dans la maison, j'ai tout trié et tout ce qui concernait ces dates où j'avais tout écrit, j'ai tout jeté. Je me suis dit, c'est fini, c'est passé. Maintenant, moi, je vais de l'avant. Je ne veux pas me morfondre, etc. Donc, j'avais plus de traces. Et elle me demande, est-ce que tu as nommé tes enfants? Et elle m'explique en me disant, le fait de les nommer, c'est que tu les honores. Et c'est comme si tu les amènes à l'existence. Tu reconnais leur existence. Pour eux, c'est une façon de les honorer, mais pour toi, ce sera restaurateur. Et ça, je n'ai pas vraiment compris. Donc, ça m'a à moitié parlé. Mais le Saint-Esprit a travaillé mon cœur pendant les mois qui ont suivi. Et un jour, j'ai été convaincue que je devais nommer mes enfants. Mais il y a certaines dates, je m'en souvenais très bien. Les circonstances, je m'en souvenais très bien. Mais il y a des dates, je ne m'en souvenais plus. Et je voulais avoir les dates pour les nommer et me souvenir quel âge ils avaient. Je ne le savais même plus. Et j'ai tout retourné à la maison, mais je savais que j'avais aucun moyen. Donc j'ai supplié le Saint-Esprit, mais donne-moi la mémoire. Là, j'ai besoin d'un miracle. Là, j'ai besoin d'un miracle. À mon travail, j'ai ressorti tous les plans mensuels de toutes les années. Ça fait plus de 20 ans que j'y suis. Où j'ai regardé tous les plans pour me dire, je dois bien retrouver quand c'est que j'ai été malade. Parce que vu que je suis quasiment jamais malade, si je vois qu'il y a marqué qu'à telle période, j'ai loupé le boulot, c'était sûrement pour ça. Alors j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Et le Saint-Esprit me dit, appelle le gynéco. Et là, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Parce que ça faisait plusieurs années que j'avais plus mis les pieds. Et que je ne lui avais pas dit au revoir. Que j'ai changé de gynéco. Parce que juste de remettre les pieds dans ce cabinet qui m'annonce que des mauvaises nouvelles, je ne pouvais plus. Et j'ai appelé. Et rien que ça, c'était restaurateur. La secrétaire a été juste géniale. Je lui ai dit, j'ai besoin de boucler la boucle. J'ai besoin de mon dossier, j'ai besoin de savoir à quelle date, il s'est passé quoi, parce que j'ai juste besoin de finir mon processus de deuil. Et quelques semaines plus tard, mon dossier était dans ma boîte aux lettres. Alors là aussi, de le lire, ça a été assez violent, parce que les termes médicaux et chirurgicaux, ils ne font pas dans la dentelle. Donc les termes sont assez crus, surtout quand on les connaît, mais j'ai pu avoir ce qui concernait mes enfants. Et mon dossier, il est chez moi, il n'est plus chez le gynéco. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai inscrits dans notre livret de famille. Enfin, avant de faire ça, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, j'ai besoin d'avoir des prénoms maintenant. Je n'ai pas reçu des prénoms, mais j'ai reçu des significations. Alors je leur ai donné des prénoms malgaches et d'origine hébraïque. Et je les ai inscrits dans notre livret de famille. Alors vous allez me dire, mais on a le droit. Non, on n'a pas le droit. J'ai fait une photocopie avec le même papier, de la même couleur et tout ça. J'ai fait un beau truc. Truc de fille, mais ça ne fait rien. J'avais besoin d'inscrire nos enfants dans notre livret de famille. Et ensuite, je suis allée dans un magasin de bricolage. Alors, c'est un peu trouble. Mais voilà. J'ai fait ce petit bricolage qui est affiché dans notre chambre à coucher, Aritz et moi. Comme ça, chaque fois qu'on a envie d'aller regarder des photos de nos enfants, chaque fois qu'on a besoin de se rappeler quel âge ils ont, ils sont là. Tout en haut, vous avez Fanny Lou. Il a 22 ans. Et lui, ce prénom, ça veut dire c'est un flambeau. C'est une lanterne, c'est un fagnon. Ensuite, vous avez Mananten, qui a environ une année de moins. Ça veut dire espérer. Fifaliana, elle a 15 ans. Ça veut dire joie. Ensuite, vous avez Galia et Gania. Galia, c'est la source de Dieu. Gania, c'est le jardin de Dieu. Ils ont 13 ans. Anaël, c'est la grâce de Dieu. Elle a 10 ans. Et Sarubit, ça veut dire précieux, joyeux, joyaux. Il a 8 ans. Il aura 8 ans au mois d'août. Lui, j'ai su qu'il s'en allait vers le Seigneur le jour de mes 40 ans. Mais lui, Sarubit, il y a quelques mois, le Seigneur me l'a montré. J'ai vu son visage à l'âge qu'il est censé avoir maintenant. Et rien que de vous en parler, je le vois, c'est gravé, je le vois. Alors, je vous devais des comptes, parce que vous avez tous été témoins de quelque chose, mais Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'exaucement, comme je l'attendais, je ne l'ai pas eu. Et en même temps, j'arrive à comprendre aussi qu'à l'âge où j'ai, de porter mes propres enfants dans mes bras, ce n'est pas forcément une bénédiction pour eux, parce que je me dis qu'on avance en âge avec Ritz quand même. Ce n'est pas une proie arrachée. Mais mes enfants, moi, je les ai. En fait, ça a fait ce déclic en moi, ça a pris des mois. Mais maintenant, quand on nous demande « est-ce que vous avez des enfants ?», je ne peux pas dire non. Avant, je disais non. Je disais non aussi pour qu'on me fiche la paix, mais maintenant, je ne peux pas dire non parce que quand je dis non, je sais que c'est un mensonge. J'ai des enfants, ils sont auprès du Seigneur, ils sont enseignés par les anges et au niveau connaissance du royaume de Dieu, ils ont une sacrée avance sur moi. Et je sais que je vais les retrouver. On ne peut pas m'enlever ça. Ça a fait le chemin de guérison dans mon cœur. C'est OK. C'est vraiment OK. Je vais les revoir. Je vais les revoir bientôt. Et ça, on ne peut pas me l'enlever, quoi qu'il arrive sur cette terre, que je me aujourd'hui, demain, que Jésus revienne avant, après, mais ça ne change rien. À un moment donné, je vais les voir. Ça, c'est ma restauration, ça, c'est ma guérison. Ça ne s'est pas passé comme je le pensais, ça ne s'est pas passé comme je le voulais. J'en chiale encore. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a plus de souffrance, ce ne serait pas vrai. Mais cette souffrance, autant elle est quand même présente. Comme Jésus, il avait toujours les marques des clous dans ses mains. Ben, c'est un peu pareil. La souffrance, elle est là, mais elle est tellement atténuée. En même temps, je suis portée. Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer. Alors, pour conclure, moi, j'aimerais vous encourager. On a tous des situations différentes, difficiles et différentes. Mais il y a toujours une issue. C'est vrai que ce n'est pas toujours l'issue à laquelle on a pensé ou on a espéré. Nos standards humains, ce n'est pas forcément ceux de Dieu, mais ceux de Dieu sont meilleurs, pour une meilleure espérance. Et moi, je vous invite chacun à vous laisser toucher par le Seigneur en disant mais moi, t'aimerais me mener où? Le chemin que tu as tracé pour moi, il est comment? Montre-moi quand il y a des rendez-vous divins. Montre-moi quand tu as placé une personne sur mon chemin qui me dit un truc et que ça vient clairement de toi. Montre-moi comment gérer ces choses-là. Dites-vous qu'il ne faut pas stagner. Dites-vous qu'on a tous besoin de restauration. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ton intelligence insondable qui nous dépasse complètement. Merci parce que tu n'es pas à court de guérison, de restauration. Tu n'es pas à court de possibilités. Tu n'es pas à court de compassion, de miséricorde. Merci parce que ta volonté, c'est de nous guérir, de nous restaurer, de nous remplir de toi, de nous faire connaître Jésus, de nous rapprocher de son cœur, de nous faire entrer dans un chemin qui va nous rapprocher toujours plus de ton royaume, de ta volonté parfaite pour nous. Et Père, dans le nom de Jésus et par ton Saint-Esprit, ce que je te demande ce matin, c'est de rencontrer chacun dans sa situation personnelle. Je te demande maintenant qu'au travers de cette sainte scène, chacun puisse vivre un cœur à cœur avec toi. Je te demande que chacun puisse faire cette démarche dans son cœur de dire « Ok, ok, si tu veux que ça se passe autrement, donne-moi la force de marcher sur ta voie. » Je te demande, Seigneur, qu'il y ait des miracles qui se passent dans les vies, que ça ne s'arrête pas à ce matin, mais que ça porte du fruit dans la durée et que nous puissions tous avoir un témoignage de restauration. Merci Seigneur. Amen.